Merci Victor. Bonjour à tous. Alors, je suis désolé d'abord de troubler votre digestion. On me fait vraiment tomber à la mauvaise heure. Des héros et des saints bâtirent la chrétienté au XXIe siècle. Vaste programme. Alors que nous réfléchissons depuis ce matin à quelles orientations emprunter pour mener notre combat, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de deux figures constitutives de notre civilisation, celle du héros et celle du saint. Ce n'est pas un hasard si la civilisation européenne, qui a conquis la quasi-totalité du monde connu, trouve, dit-on, son origine dans l'Iliade et l'Odyssée, récits des aventures d'Achille et Ulysse, deux héros mythiques de la civilisation grecque. Le héros, s'il avait au départ un caractère quasi divin, est devenu au fil des siècles le combattant, le chef de guerre, puis le simple soldat des grandes guerres dont on honorait la mémoire et les exploits. L'un des indicateurs fiables de notre décadence est précisément cette absence de culte rendue aux héros de notre histoire, cette absence de respect dû aux anciens combattants, cette absence de mémoire tout court. Un mémoricide et un refus du respect encouragés par les courants dominants issus de la génération de nos grands-parents, qui, après avoir jeté aux orties tout ce qui les avait précédés, nous contraignent aujourd'hui à vivre enfermés et paranoïaques à cause d'une grippe chinoise. Ceci au nom du respect dû aux anciens. Quelle triste ironie. Heureusement, et l'on peut s'en réjouir, la nature des courbes démographiques devrait nous être plutôt favorable, au moins de ce point de vue-là. Mais comment s'inspirer aujourd'hui des héros qui nous ont précédés? À l'heure où la virilité et la force sont systématiquement condamnées, et où, Dieu merci, la guerre est absente de nos vies, comment former des héros? C'est une très vaste question, mais je crois que le militantisme constitue à son échelle une bonne école de l'héroïsme. Non pas cet héroïsme fracassant dont nous avons tous rêvé, mais de cet héroïsme du quotidien, discret, responsable, et aussi beau au fond que ne le fut celui de nos mères qui nous ont portés, élevés et qui ont fait un certain nombre de sacrifices pour nous éduquer. C'est de cette habitude du sacrifice et de cet amour du service d'autrui, répété 1000 fois, que jailliront peut-être les héros de demain, lorsque le temps sera venu. Notez d'ailleurs que l'abnégation, le sacrifice, la discipline d'une vie militante bien comprise sont les ferments indispensables à toute sainteté. Et j'en arrive là à cette seconde figure constitutive de notre identité dont je voulais vous parler aujourd'hui, la figure du saint. Les saints, on le sait, sont ceux qui conforment leur vie à la volonté de Dieu, c'est-à-dire au message de l'Évangile et au commandement de l'Église. En France particulièrement, ils ont eu une influence directe sur leur entourage et pas seulement dans les cieux. Il y a en France 4581 communes qui portent des noms de saints. Alors bon, quel est le rapport, me direz-vous, entre les saints, les héros, la politique? Chers amis, je ne suis pas là aujourd'hui pour faire un sermon, je serais bien mal placé, mais si notre époque semble nous interdire l'héroïsme, l'épopée glorieuse dont nous rêverions tous pour tirer la France du marasme, rien ne nous interdit d'être des saints et de convertir par l'exemple notre entourage. Ce devrait être pour les catholiques l'objectif principal, bien entendu. Mais la sainteté n'est pas incompatible avec le combat politique. Voici un point sur lequel insister lorsque l'on voit la grande apathie des milieux catholiques en France face à l'actualité. La sainteté n'est pas incompatible avec le combat politique. Et comment ne pas citer pêle-mêle Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Geneviève, Catelineau, le saint de l'Anjou comme exemple de combattants héroïques remplis de sainteté. Mieux, comment ne pas méditer, puisque c'est le thème de notre colloque aujourd'hui, sur le fait que Saint Benoît, avec sa règle bénédictine, a peut-être fait plus pour la civilisation chrétienne et même pré-chrétienne que beaucoup de nos héros. Un simple moine, en édictant une règle communautaire de sainteté, a fait plus pour nous que le magnifique chevalier Bayard, pourtant chrétien sans peur et sans reproche. Grâce à la règle bénédictine, donc grâce à une forme de sécession, c'est toute l'Europe qui est devenue chrétienne, a redécouvert l'Antiquité gréco-latine et a brillé dans une multitude de domaines. On le voit, le catholicisme fut le vecteur et le ferment de notre civilisation, et c'est un truisme que de dire ici parmi vous que c'est bien au catholicisme qu'il nous faudra revenir en définitive pour établir une société saine et brillante. Plus encore que de remporter je ne sais quelle victoire, fût-ce sur un champ de bataille, il nous importe donc de retrouver ce socle civilisationnel commun. Je ne dis même pas refaire un peuple, comme nous le proposait tout à l'heure Julien Langella à la suite de Mistral, mais déjà semer les graines qui pourraient nous le permettre. C'est pourquoi j'ai parlé dans mon titre de bâtir la chrétienté. Je sais bien que ceci va vous sembler un peu utopique, surtout à une époque où le sécularisme a imprégné jusqu'à nos propres personnes et nos propres mentalités. Je sais bien que la notion de chrétienté, avec un C majuscule, va même sembler idiote à un certain nombre d'amis souverainistes convaincus. J'ai d'ailleurs utilisé cette formule provocatrice à dessein, mais j'aurais dû dire « déchrétienté au XXIe siècle ». Parce qu'il me semble plus aisé de bâtir par nos familles, nos écoles, nos entreprises, nos organisations politiques, communautaires, ainsi que nos paroisses, une multitude de chrétientés en faisant sécession, que de conquérir électoralement et par le haut un pays littéralement envahi, dont une grande partie de la jeunesse ne comprend plus la langue ni ne connaît l'histoire. Un pays morcelé ethniquement, socialement, spirituellement, un pays dont on se demande parfois s'il veut toujours vivre. Électoralement, certes, un grand nombre de nos thèmes sont plébiscités. Je pense notamment à l'immigration, à la justice sociale peut-être. Mais dès que nous nous éloignons des préoccupations légitimes et bien trop méprisées à droite de l'estomac, nous sommes absolument, totalement, désespérément, oserais-je dire, minoritaires. Aussi, c'est uniquement par l'exemple, la transmission, la fondation de communautés solides que nous parviendrons à agir utilement pour l'avenir. Ceci n'est pas un message pessimiste, et j'aimerais partager avec vous cette citation de Pasolini, pourtant grand antifasciste et homosexuel italien. Il a dit ceci à la veille de sa mort sur les minorités actives qui font l'histoire. « Le refus a toujours constitué un rôle essentiel. Les saints, les ermites, mais aussi les intellectuels. Les quelques personnes qui ont fait l'histoire sont celles qui ont dit non, et non les courtisans des valets et des cardinaux. Pour être efficace, le refus doit être grand et non petit, total et non pas porté sur tel ou tel point absurde, contraire au bon sens. » Sommes-nous prêts à ce refus ? Sommes-nous prêts à la marginalité qu'il implique ? J'entends souvent dire dans nos milieux des gens qu'ils sont prêts à donner leur vie, et pourtant, trop souvent, nous peinons à sacrifier ne serait-ce qu'un peu d'argent ou nos réputations, notre respectabilité. Ce nom dont parle Pasolini peut avoir des conséquences bien plus importantes que nous l'imaginons. Monseigneur Lefebvre disait « Restaurer la messe traditionnelle et l'Occident refleurira ». En signe de refus grand et total, pour citer Pasolini, il ordonna en 76, seul, moqué et méprisé de tous, seulement 13 prêtres destinés à dire la messe traditionnelle. 45 ans plus tard, les progrès du traditionalisme sont tels que le haut clergé s'en inquiète au point d'essayer parfois d'interdire la messe traditionnelle. Par ce petit exemple purement religieux, on voit bien qu'inverser le cours de l'histoire, transmettre, bâtir des civilisations, voici ce que nous pouvons faire en prononçant le nom total et définitif des héros et des saints. Dans le Paris bénédictin de Rod Dreher, l'auteur nous fait part du témoignage d'un dissident d'un pays de l'Est qui expliquait qu'il refusait d'être l'un des maillons de la chaîne du mensonge mise en place par le régime soviétique. Dire la vérité, refuser de participer et même de tolérer passivement la propagande immigrationniste ou LGBT, savoir dire non quoi qu'il en coûte, travail, famille, amis, voilà déjà la première des sécessions à la fois modeste et en même temps terriblement efficace, initiée et vécue par tous les héros et les saints. Cette sécession intérieure, on en a déjà parlé plusieurs fois à Academia Christiana, est la première étape et l'étape indispensable. Elle passe par le refus du mensonge en public. Dans nos vies professionnelles, je viens de déjeuner avec un bon ami qui me raconte comment pensent ses collègues, comment parlent ses collègues, etc. Et je lui ai dit instinctivement, tiens, tu as bien fait de te taire. Et à la réflexion, je me dis que je crois que nous avons tort de nous taire dans nos milieux professionnels. Que ce n'est pas en nous taisant que les choses vont s'arranger et qu'on a commencé avec les lois Pleven et Guesso il y a 30 ans en se disant, bon, sur ce sujet-là, on peut faire une concession, se taire. Et on en arrive aujourd'hui à être criminalisé pour le simple fait de dire que non, un homme ne peut pas tomber enceinte. Mes chers amis, puisqu'on va parler un petit peu de politique désormais, il n'y a certes pas dans les partis politiques de saints ni de héros. Il y a un certain nombre de gens de bonne volonté. Hélas, que valent les bonnes volontés noyées dans la logique électorale, dans ce règne de la quantité dénoncé en son temps par René Guénon ? Pas grand-chose, nous le savons. Pour autant, devrait-on se draper dans une pureté de façade et nous abstenir de toute action politique, comme le font tant de catholiques ou d'identitaires français ? Devrait-on refuser de nous adresser à nos compatriotes sous prétexte que nous aurions la vérité ? En nous contentant de gagner de quoi monter des écoles hors contrat pour nos enfants et d'aller à la messe, ce qui est déjà bien, ne serions-nous pas les sépulcres blanchis dont parle le Christ qui paraissent beaux au dehors et dedans sont pleins d'ossements de mort. Mes chers amis, la sécession à laquelle je vous convie n'est pas un refus négatif et aigri du monde qui nous entoure. C'est une sécession charitable, active, patiente, ouverte, à l'instar des monastères bénédictins qui accueillent ceux qui cherchent et donnent au monde, outre des prières et des sacrifices, des productions intellectuelles et des produits d'artisanat, en bref, de quoi nourrir l'âme et le corps de ceux qui les entourent. Il est inconcevable, lorsque l'on prétend détenir la vérité, que l'on ne soit pas investi localement, dans une chorale, une école, un mouvement de jeunesse ou dans nos communes. Comment peut-on prétendre avoir la vérité religieuse, la vérité politique, et ne pas être transporté de zèle et aller à la rencontre de nos compatriotes, se mettre nous-mêmes un grand coup de pied au derrière et aller apporter par charité quelques remèdes aux maux du monde moderne. Un artisan ouvertement catholique et patriote, engagé localement et soucieux de travailler correctement, aura plus d'impact politiquement qu'un expert de Twitter retweeté des dizaines de milliers de fois par des gens qui pensent déjà à 90% comme lui. Une maison bâtie ou restaurée dans les règles de l'art, ou un restaurateur servant des produits locaux, ont plus d'impact économique que toutes les péroraisons cathodiques auxquelles s'exercent nos bons politiciens conservateurs depuis des années. Une famille nombreuse où est dispensée une éducation de qualité est plus utile que telle ou telle pétition contre la théorie du genre lancée par tel ou tel organisme conservateur. D'ailleurs, lorsque la source civilisationnelle est quasiment tarie, qu'y a-t-il à conserver ? Je vais vous faire une confession. Lorsque je vois les partis politiques patriotes rêver de voir rejaillir la France éternelle en restaurant la misérable 5e République du général de Gaulle, ou dénoncer tel ou tel propos homophobe d'un membre de la France insoumise ou d'une racaille de banlieue au nom des valeurs de la France et qui pensent ainsi faire un coup politique, j'ai l'impression que cette mentalité conservatrice, passez-moi l'expression, est aussi utile que de mettre des testicules dans du formol et de prier pour qu'elles restent fertiles. Car voilà ce que sont devenus les partis politiques de droite ou patriotes, des bocaux de formol dans lesquels d'ailleurs on manque souvent un peu de couilles. Mes chers amis, fuyons un certain nombre de polémiques stériles qui enflamment la toile et les plateaux télévisés pour s'éteindre en quelques jours au gré d'un nouveau scoop. Toute l'énergie et tout l'argent mis dans des combats virtuels ou dans certaines échéances électorales sur lesquelles, au fond, nous n'avons que peu d'influence, pourrait être mis au service d'écoles, de locaux associatifs, de restauration de patrimoine, que sais-je. Cessons d'espérer un hypothétique changement par le haut tant que la base elle-même est vermoulue. Cessons de vouloir que l'État veuille, agissons à notre échelle. Notre objectif final n'est pas de nous mettre à l'abri du monde, comme je ne sais quel puritain américain ou juif pharisien, prétextant de faire sécession pour ne rien faire du tout. Notre objectif est de changer ce monde. Notre objectif n'est pas de former une coterie conservatrice, contente d'elle-même et coupée des autres, mais d'être et catholique et révolutionnaire, et de bâtir, école après école, paroisse après paroisse, mouvements politiques locaux après mouvements politiques locaux, communautés enracinées après communautés enracinées, entreprises après entreprises, une multitude de sécessions, d'où partira la reconquête. D'ailleurs, se mettre à l'abri du monde est une chose parfaitement illusoire. Lorsque l'on voit que l'Alvarium, petite association locale, a pu être dissoute, non pas pour incitation à la haine, mais, selon les mots de Darmanin dans sa note en délibéré, pour incitation à un climat qui pourrait laisser inciter à la haine, croyez-moi que dans la plupart des écoles catholiques sous contrat et a fortiori hors contrat, il y aurait des éléments pour la République susceptibles de justifier une dissolution. Il n'y a pas de moyen de se mettre à l'abri du monde. Le monde ne nous épargnera pas, et sans vouloir faire l'oiseau de malheur, il est fort probable que dans cette pièce, alors j'espère que ça ne va pas me tomber dessus à moi, il y ait des gens ici qui aient un enfant un jour qui soit homosexuel, transsexuel, que sais-je. Ces choses-là arrivent dans les meilleures familles, entre guillemets, et par conséquent, n'attendons pas que ça nous tombe sur le coin de la figure, et partons à l'assaut du futur. Car la sécession bien comprise, le pari bénédictin bien appliqué, ne sont rien d'autre que la reconquête de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Une reconquête de notre passé pour préparer l'avenir, une reconquête de la base pour nous élancer vers le sommet, une reconquête, mes chers amis, dont je suis sûr qu'en ce moment même, nous sommes acteurs et dont j'espère que dans 50 ans, nous pourrons contempler et savourer les fruits. Alors dès maintenant, direction sécession et rendez-vous à la victoire.